Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Pelousi, réalisateur et scénariste parisien venu nous parler de son film Ghost Song, présenté au Festival de Cannes en 2021 et diffusé dans les salles obscures depuis le 27 avril 2022. Des séances sont notamment prévues à la Maison de la Culture d'Amiens, dans le cinéma Orson Welles, jusqu'au 10 mai. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Pour commencer, je vous propose simplement peut-être de nous résumer un petit peu de quoi traite votre film.
D'accord, donc Ghost Song, c'est un documentaire qui parle de la vie de OMB Bloodbath et de Will, qui sont deux musiciens. Donc il y a une rappeuse du Third World, qui est un quartier de Houston historique, qui a vu naître le mouvement porté par DJ Screw. Ensuite, lui, c'est un joueur de blues. Voilà, qui sont deux personnages qui se croisent jamais. Et tout se passe alors qu'un ouragan est en train de menacer la ville de son arrivée.
Il s'agit de votre deuxième film qui se passe à Houston, au Texas, comme le précédent Southern Bell, qui est sorti en 2018. Alors, vous avez fait des études de théâtre et de cinéma à New York, ce qui explique, j'imagine, votre rapport aux États-Unis. Mais alors, pourquoi cet intérêt particulier pour cette ville et ses habitants ?
En fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, j'avais un peu vécu à Houston et j'avais... Le premier film, c'est le portrait d'une héritière texane. Et en fait, c'était une personne que je connaissais. On était assez proches et du coup, j'ai suivi sa vie. Et grâce à elle, j'ai rencontré Will, qui est son cousin, qui est dans le second film. Donc, il y a un lien entre les deux films. Et Bloodbath, ça s'est fait un peu différemment, la rappeuse. Je l'ai rencontrée au moment où on faisait des repérages... pendant le tournage du premier film. Et là, on se baladait dans le Third World. Et je vous disais tout à l'heure, en fait, le Third World, c'est un quartier qui se trouve au milieu de Houston et qui a vu naître énormément d'artistes, rappeurs, musiciens comme DJ Screw, Fatmo, Little Keke, énormément de musiciens très, très influents aujourd'hui. Mais dans les années 90, en fait, ils vivaient vraiment en autarcie. C'était une musique qui s'écoutait que dans le Sud. Mais qui aujourd'hui, on peut reconnaître l'influence dans beaucoup de rap qu'on écoute, mais pas que du rap, il y a aussi, ça a inspiré de la musique punk, il y a tout un aspect psychédélique. Donc Houston, je disais, c'est une ville très conservatrice, et où il fait une chaleur comme ça accablante l'été, qui est sur la ligne des ouragans. Et moi, je me fantasmais, je me racontais un peu qu'il y avait on sentait ça... il y avait cette rébellion chez les artistes de blues, de hip-hop, même les gens que je rencontrais qui étaient un peu en marge. Et donc, du coup, ça faisait naître un peu des gens comme ça que moi je trouvais hyper intéressants et pour qui j'ai eu des flashs quoi, cinématographiques.
C'est en effet votre deuxième film qui serait une génération qu'on pourrait qualifier peut-être de meurtrie et en perdition. C'est un sujet qui vous tient à cœur donc ?
Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. L'exclusion, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. L'exclusion, surtout des gens, bah, comme par exemple Will, un des personnages qui a des problèmes de santé mentale. Et aux États-Unis, on est tout de suite marginalisés. La plupart des SDF, SDF qu'on voit dans la rue, c'est souvent des gens qui pourraient être soignés en psychiatrie, qui sont du coup complètement exclus. Il y a tout un système de santé en plus Houston qui est une ville très conservatrice, il y a un système de santé qui est assez terrifiant, donc ouais, l'exclusion mais aussi le rapport à l'art de tous ces personnages, la façon dont ils s'expriment et la façon dont ils subliment aussi leur désarroi et leur traumatisme, c'est ça qui m'inspirait et je trouvais que, voilà, il y avait quelque chose à Houston de particulier, une ville comme ça est très répressive mais qui fait naître justement des artistes très très libres aussi, en contradiction quoi.
Une volonté peut-être d'envoyer un message, de sensibiliser, de changer certaines mentalités à l'égard de ces gens-là.
Peut-être pas de l'idée de message, j'avais peut-être pas envie de passer un message, mais c'est plutôt de les laisser eux parler. En échangeant, les filmant et de regarder des gens pour qui j'ai eu des coups de foudre artistiques, disons, humains aussi, et de les laisser s'exprimer à travers la caméra. Donc d'avoir un regard sur eux différent de ce que pouvait être le regard des pères, de l'État, même de la nation. Donc essayer de les regarder, quoi.
Alors, Ghost Song, c'est un film qui a un genre qui est quand même un petit peu particulier, à mi-chemin entre documentaire et film. Est-ce que vous avez vu des influences peut-être qui vous ont mené à ce genre de réalisation?
Ouais, j'ai beaucoup regardé plus jeune le cinéma, justement, qui mélangeait un peu les formes. Le film qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma au début, c'était Roma, Città Aperta, un film de Rossellini. Et donc, du coup, on sent un peu cet aspect-là. Après, c'est vraiment une fiction, mais c'est des gens, beaucoup de gens qui jouent leur propre rôle. T'as des vrais résistants dans le film. Et donc de jouer avec les formes comme ça, c'est toujours une idée que j'ai envie de pousser aussi dans ce que j'avais fait avant. Et avec, on avait commencé déjà avec Sardone Bell, mon premier film. On avait commencé à jouer avec le format documentaire ou fiction, d'essayer de brouiller les pistes justement. Et c'est quelque chose que j'ai voulu pousser avec Ghost Song. Donc c'est des personnages, c'est leur vie, ça se passe vraiment, il y a beaucoup de scènes qui se passent en direct, mais aussi il y a des moments de mise en scène, de choses par exemple que j'avais pu vivre ou qui m'ont raconté qu'on a mis en scène un peu comme au théâtre. Donc voilà, c'est un mélange des deux, quoi.
Vous nous avez dit plutôt comment vous aviez rencontré les protagonistes du film, si je peux les appeler comme ça. Comment ça s'est passé avec eux sur le tournage entre vous?
Bah, en fait, ça a été, on se connaissait déjà bien au moment où j'ai commencé à tourner Ghost Song. Bloodbath, je l'avais rencontré pendant mon premier tournage, et on s'était échangé beaucoup sur les réseaux, je la suivais, on se parlait de temps en temps, on s'appelait. Et entre ma première rencontre avec elle et le tournage effectif, il se passe 2 ans, et là, entre-temps, elle s'était fait tirer dessus 2 fois, elle avait perdu 20 amis proches, elle le dit dans le film, et donc elle était vraiment traumatisée comme quelqu'un qui a vécu une guerre, quoi, une guerre civile. Et en fait, il y avait une guerre des gangs qu'elle vit depuis qu'elle a 9 ans à Houston. Perdu énormément d'amis, ils ne savent même pas où ça a commencé. Bah, c'est comme les guerres un peu, les guerres, si on ne sait pas trop souvent comment ça a commencé. Et donc à ce moment-là, au moment où je la rencontre, elle était très ouverte, elle m'a raconté sa vie, elle venait de sortir de prison, elle s'était dédiée complètement à la musique et laissait tomber les gangs. Mais au moment où je commence vraiment à filmer 2 ans après, là, elle était traumatisée. Donc, elle sortait pas, elle longeait les murs. C'était compliqué de lui donner un rendez-vous. Elle était tout le temps en studio. Son seul but, c'était vraiment plus que la musique. Et c'est ça qui la sauve, quoi. Et c'est ça que j'ai envie un peu. Quand on parlait de message, peut-être s'il y a un message, c'est un peu un message un peu, qui peut paraître banal, mais c'est comment l'art aussi peut être un peu sauvé, quoi. Et le rap aussi, notamment. Je trouve que le rap, qui est souvent critiqué comme forme, parce qu'il y a il peut y avoir des textes très violents, mais je trouve que c'est aussi une façon de théâtraliser et d'exprimer justement des choses, des douleurs comme ça, ou même des conflits. Mais pour moi, à partir du moment où c'est exprimé, quelque chose sort, et donc et on le voit, je l'ai vécu, enfin, j'en étais témoin avec Bloodbath, c'est vraiment quelque chose qui l'a sauvé, quoi.
Will et Alex ou Bloodbath, ils ont l'air quand même d'être radicalement opposés sur beaucoup de points, et pourtant à la fois, ils ont l'air d'avoir énormément en commun. Comment vous voyez un petit peu ce rapport qu'il y a entre ces deux personnes pourtant très différentes?
Bah justement, c'est ça, moi, qui m'avait frappé, c'est qu'ils se croisent jamais. Je trouvais ça absurde que des gens comme ça, qui ont autant de choses à se raconter, finalement, se croisent que sur des autoroutes. Parce que Houston, c'est une ville aussi qui a une architecture particulière, où tu as plein d'autoroutes comme ça qui divisent vraiment les quartiers. On a presque l'impression que c'est de l'urbanisme qui est fait vraiment pour diviser, quoi. Et ségréguer aussi, d'une certaine façon. Et ce qui est étonnant à Houston, c'est que l'influence qui vient des quartiers de Bloodbath, donc le blues avant le hip-hop, qui vient vraiment des quartiers de Bloodbath, au Texas, énormément de musiciens de blues viennent de là, influence énormément la musique de Will, et donc il y a un dialogue qui se crée, et ils ont des traumatismes en commun. Will a perdu aussi énormément d'amis, mais lui plutôt avec les addictions, le rejet, les maladies psychiatriques, Il a été rejeté par son père. Pareil, Bloodbath est quand même en marge de... Enfin, elle représente des choses qui, dans le sud des États-Unis, sont très marginalisées. Elle est lesbienne. Elle est fait de la prison, donc elle ne peut pas voter. Elle est née avec des endettements. Sa mère a déjà été endettée à sa naissance. Donc, il y a tout un truc comme ça. Ils ont énormément de choses en commun, même s'ils viennent d'un milieu social très, très différent. Mais moi, je trouvais ça absurde qu'en fait, ils se rencontrent jamais et ils vivent dans des mondes parallèles. Ils passent sur les mêmes ponts, dans les mêmes endroits. Et presque, ils chantent presque la même musique, un peu de la même façon. Et sauf qu'ils se rencontrent pas, quoi. Et moi, je trouvais que c'était un peu l'absurdité de cet endroit-là.
Vous l'avez déjà évoqué, mais c'est vrai que dans le film, il y a une place très importante qui est laissée à la musique. Il y a donc Alex qui essaie de fuir son passé et de changer de vie grâce à la musique. Will qui regarde un petit peu l'époque où il en jouait plus activement et qui s'en sert pour faire face à ses propres démons. Je pense notamment à cette scène où il se confronte en quelque sorte à son oncle avec sa guitare. Quelle signification vous donnez à la musique dans ce monde-là et dans ce film-là?
Moi, j'étais bercé par le rap, par l'opéra, par toutes ces musiques, par le blues aussi. C'est des musiques finalement qui peuvent, en surface, paraître très différentes. Mais je trouve que c'est des musiques par exemple, pour moi, le rap et l'opéra ont énormément de choses en commun. Donc justement, l'aspect théâtral, la tragédie un peu grecque qu'on peut retrouver aussi dans des morceaux de hip-hop. Ce côté un peu entre la vie et la mort tout le temps, extrême. Et pareil pour l'opéra et le blues aussi, où ça parle beaucoup de mort, de prison, il y a une espèce de mélancolie tout le temps dans le blues qu'on retrouve dans toutes ces formes de musique. Et Houston, c'est un peu un berceau de toutes ces musiques. On ne le sait pas trop parce que c'est très niche, c'est assez secret, mais énormément de musiciens, d'artistes viennent de là-bas. Donc pour moi, c'était important de représenter ça dans le film et au montage. Après, bon, un film, c'est toujours un format restreint de ce qu'on peut avoir vécu quand on a passé du temps dans cette ville. Et donc, j'ai vu plein d'autres choses. Il y a aussi des musiciens de punk qui sont très influents là-bas. Il y a plein de genres de musique différentes que j'aurais voulu montrer dans le film. Mais on n'a pas assez d'espace pour faire ça. Donc, du coup, je me suis resserré sur le hip-hop et le jazz. Et ce hip-hop-là particulièrement qui vient de Houston, qui a vraiment son originalité et une forme très, très indépendante quoi, de hip-hop. En fait, il commençait à rapper sur des mixtapes dans les années 90, et ça pouvait durer 9 minutes. C'était pas du tout commercial comme certains morceaux qu'on retrouve qui durent 2 minutes, qui sont efficaces, ou moins même. Donc là, il y avait un truc très libre, et souvent, c'est des artistes qui se pliaient pas au label. Donc ce côté-là, un peu punk et indépendant, me plaisait beaucoup de la scène de Houston.
Je vous propose maintenant de passer le trailer du film.
Tonight the forecast is urgent and distressing. Hurricane intensifying rapidly, expected to slam into Texas as a category 3.
Two aspiring rappers executed.
The killers came up behind the Mercedes he was sitting in and opened up.
It's like Sodom and Gomorrah out here, man. This is excessive Tower of Babel type bullshit.
Houston, Texas, oil, sex, alcohol, and drugs.
Look, you want a
selfie?
Boy, I've been rapping since I was 9 years old.
Just keep doing music. Stay out of the hood, baby. Just stay out of the goddamn hood.
Damn, I almost died, like, and I'm really still here, like, so.
Well, my baby was shot. I don't know, it was scary to me.
They continued to give me fucking drugs until I was 18 because they thought I was ADHD.
They fucked us up. Fuck your dad, fuck my dad, fuck them.
You're a good man. You're not your father.
There is no God in this place.
Ces musiques rythment le film, mais il y a également Jimmy Woo qui a travaillé sur la bande originale du film. Un ami de jeunesse, si je ne fais pas d'erreur.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez pensé de son travail sur ce film et comment c'était de travailler avec lui?
En fait, c'est assez drôle parce que Jimmy Woo, c'est aussi une des premières personnes qui m'a introduit au Screw. le Screw, et qui m'a beaucoup parlé de ça, de la scène de Houston, et cette façon dont ils avaient de ralentir avec la codéine, etc. Et donc, je connaissais sa musique, j'aimais beaucoup sa musique, on s'était rencontrés plusieurs fois, on était assez proches, enfin, plutôt on était dans des groupes d'amis qui se croisaient souvent. Et j'ai aimé beaucoup travailler avec lui, c'était assez rapide, on n'a pas beaucoup échangé, je ne lui ai pas donné trop d'indications. Il a vu déjà un premier montage avec quelques idées comme ça de Screw, et il a retrouvé des influences de Houston, en mélangeant aussi avec sa musique à lui qui est plus électronique, mais pour essayer de créer un format un peu, disons, enfin créer une atmosphère un peu psychédélique quoi dans le film. Et donc c'était assez, quand il m'a proposé des morceaux, on n'a pas eu énormément à discuter, il avait saisi en fait l'énergie du film et ce que je voulais quoi.
Je reviens brièvement sur le titre de ce film, donc Ghost Song, qui désigne ces jeunes en perdition qui essayent d'exorciser un petit peu leurs démons à travers la musique. Will se qualifie lui-même de fantôme et dit Houston que c'est une ville fantôme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette dénomination de fantôme pour les qualifier ?
Bon, en fait, il le dit un peu aussi dans le film quand il parle de ça. C'est plutôt les fantômes, pour moi c'est les fantômes de c'est pas eux que je vois comme fantômes plutôt, c'est ce que j'imaginais, c'était plutôt les fantômes de leur passé en fait. C'est pour Bloodbath les gangs, les morts, le deuil, et pour Will pareil, il le dit, beaucoup d'amis sont morts et moi j'ai l'impression de devenir presque un fantôme si je reste ici. Et donc, pour moi, c'est plutôt le chant de ces fantômes qui ensuite devient un peu leur propre chant à travers eux, quoi. Et donc, il y a ce truc-là un petit peu symbolique, mais qui m'amusait aussi. Et j'aimais bien il y avait je sais plus quelle musique, je crois que c'était des Doors qui s'appelait Ghost Song, donc du coup, voilà. Ça me plaisait d'appeler le film comme ça. Mais il y avait une musicalité que j'aimais bien aussi.
Il y a une certaine place qui est laissée au divin aussi dans ce film. Alors là, comme ça, je pense à cet immense graffiti de Dieu qu'on peut apercevoir à un moment donné.
Oui, c'est vrai.
Il y a ce monologue de Will aussi, à plusieurs reprises d'ailleurs, qui parle de Dieu et des hommes et de leur rapport à Dieu. Il a un rapport un petit peu particulier lui-même à la religion. Et il y a peut-être aussi cet ouragan qui a une dimension divine lui aussi. Quel regard vous avez aussi sur cette place du divin simplement dans ce film?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, en les laissant parler, les personnages, Will, il s'est soigné de ses addictions un peu, il a remplacé un peu ses addictions par la religion. Donc il a ce rapport, il est croyant, donc il parle souvent de ça. Mais en même temps, il a cette ambiguïté vis-à-vis de la religion. De temps en temps, il s'en moque. On ne sait pas trop s'il joue un peu le prophète déchu, s'il y croit vraiment. Et donc, en le laissant parler, c'est quelque chose... Et il y a ce côté-là un peu biblique à Houston qui est étonnant, parce que c'est justement les ouragans, les orages dans le ciel, les grands immeubles. Ça fait un peu justement Gotham City, comme on disait. Et ce n'était pas vraiment l'idée d'avoir un ouragan qui soit... l'Arche de Noé à la fin, c'était plutôt en fait d'essayer de respecter ce qu'ils avaient vécu en fait, un ouragan énorme 2 ans auparavant à Harvey, où vraiment la ville avait été inondée et s'était retrouvée sous l'eau et les gens se déplaçaient en bateau quoi. Et donc c'était comme un Venise moderne contemporain sous l'eau. Et donc il y a ça, mais aussi Houston, c'est une ville quand même très religieuse, il y a des églises partout, il y a des plein de cultes différents, l'oncle de Will aussi est dans une église différente, enfin chacun a sa propre paroisse, Bloodbath est très croyant, donc c'est pas ma vision à moi du monde, mais c'est un peu c'est des personnages qui sont croyants, donc il y avait dans la façon de s'exprimer, et souvent Dieu revenait quoi.
Je vous propose de conclure, nous donner le mot de la fin.
Allez voir Ghost Song qui est au cinéma en ce moment, si vous êtes intéressé par la musique et les États-Unis.
C'était Nicolas Peduzzi, réalisateur et scénariste du film Ghost Song, qui sera diffusé à la Maison de la Culture d'Amiens dans les cinémas Orson Welles jusqu'au 9 mai. Nicolas, je vous remercie.
Merci à vous, c'était gentil de nous avoir ici.
Et une prochaine fois.
À bientôt.